Chapitre 38. Les promises de la lance. Egwen laissa le saïdar déferler en elle avant même qu'un cri ait fini de quitter sa gorge. Du coin de l'œil, elle vit la même aura envelopper Elaine. Un moment, elle se demanda si Elisor, les ayant entendus, allait leur envoyer du secours. Après tout, la grue bleue était à moins d'une demi-lieue de là. Puis elle oublia toute idée d'assistance et entreprit au contraire de modeler le flot d'air et de feu pour le transformer en éclair. Dans le silence revenu, elle aurait cru entendre siffler ses armes mortelles. Les bras croisés, l'air déterminé mais sereine, Nineveh n'avait pas bronché. Parce qu'elle avait vu la première ce qu'Egwen venait à peine de remarquer? Ou parce qu'elle n'était pas assez furieuse de toute façon pour accéder à la source authentique? En tout cas, la personne qui venait de jaillir de nulle part était une femme à peine plus vieille qu'Egwen, même si elle la dominait d'une bonne tête. La jeune femme ne se coupa pas pour autant du saïdar. Si les hommes étaient souvent assez naïfs pour se sentir en sécurité face à une représentante du sexe faible, Egwen avait depuis longtemps renoncé aux illusions de ce genre. Dans un coin de sa tête, elle nota cependant que l'aura d'Elaine avait disparu. La fille héritière avait besoin de sérieux cours de réalisme.
C'est vrai qu'elle n'a jamais été prisonnière de Sehanshania.
Même si elle ne portait pas d'armes, la femme qui se tenait devant elle n'était pas du genre qu'un mâle, même frappé de déficience intellectuelle, aurait tenu pour inoffensif. Les yeux bleu-vert, les cheveux cuivrés coupés courts, à l'exception d'une natte qui lui tombait sur les épaules, elle portait une tenue parfaite pour le camouflage dans tous les environnements comportant de la terre ou des rochers. Pour avoir entendu des descriptions par le passé, Egwen sut immédiatement qu'elle avait affaire à une aïelle. En la regardant mieux, elle éprouva une étrange sympathie pour la guerrière. Comment cela se faisait-il?
On croirait la cousine de Rand.
Cette explication n'apaisa quand même pas la curiosité d'Egwen.
Au nom de la lumière, que fait-elle ici? Depuis la guerre, les aïels n'ont plus quitté leur désert.
Toute sa vie, Egwen avait entendu parler de la cruauté des aïels. Et les promises de la lance, la version féminine des terribles guerriers, ne passaient pas pour plus clémentes que leurs équivalents masculins. Pourtant, la jeune femme n'éprouvait plus la moindre angoisse, au contraire, elle était très énervée d'avoir cédé à la panique au début. Tant que le Saïdar alimentait le pouvoir de l'unique, au fond d'elle-même, elle n'avait rien à craindre de personne.
N'était une sœur pleinement formée. Mais aucune autre femme, serait-ce une aïelle, ne peut me menacer.
Je me nomme Avienda, dit la guerrière. Je viens du clan des Sept Vallées et j'appartiens aux aïels Tahardad.
Son ton resta aussi neutre et aussi imperturbable que son expression.
Je suis une Farda Ismaï, ce que vous appelez une promise de la lance.
Elle se tut un moment, étudiant les trois jeunes femmes.
Vous n'avez pas le visage qui convient, mais nous avons vu vos bagues. Chez vous, il existe l'équivalent de nos matriarches, des Aes Sedai, je crois. Faites-vous partie des sœurs de la Tour Blanche?
Un moment, Egwen se sentit mal à l'aise. Qui était le « nous » en question? Regardant alentour, elle ne vit rien de suspect derrière les buissons, et ce dans un cercle de 20 bons pas de rayon. S'il y avait d'autres aïels, elle devait être dans le bosquet suivant, à plus de 200 pas de là. Ou dans le suivant encore, au double de distance. En d'autres termes, trop loin pour être dangereuse.
Sauf si elles ont des arcs.
Et à condition d'être de très bonnes archères. À deux rivières, durant les compétitions de Beltin ou du Jour du Soleil, seuls les meilleurs concurrents parvenaient à être précis à des distances pareilles. De toute façon, Egwen pouvait foudroyer d'un éclair quiconque s'amuserait à la prendre pour cible.
Nous sommes bien des sœurs de la Tour Blanche,
répondit très calmement Nineveh. Elle s'efforçait de ne pas regarder autour d'elle, enfin de ne pas en avoir l'air, avec une concentration qui gâchait tous ses effets. Même Elaine ne pouvait pas s'en empêcher.
Maintenant, quant à savoir si nous sommes aussi sages que vos matriarches, que veux-tu de nous, petite?
Avienda eut un sourire désarmant. Elle était vraiment très mignonne, constata Egwen, même si jusque-là, elle avait fait beaucoup d'efforts pour le cacher.
En tout cas, tu parles comme une matriarche. Toujours direct et très peu de patience pour les imbéciles.
Le sourire se volatilisa, mais le ton d'Avienda resta serein.
L'une d'entre nous est très grièvement blessée. Peut-être à mort, pour ce que j'en sais. Les matriarches arrachent souvent des gens à la mort. J'ai entendu dire que les Aes Sedai faisaient d'encore plus grands miracles. Aiderez-vous ma compagne ?
Et Gwen en resta un moment sans voix.
Une de ses amies se meurt ? Et elle nous demande de l'aide comme si elle voulait que nous lui prêtions un peu de farine ?
Je l'aiderai si c'est possible,
répondit Ninevé.
À Vienda, je ne peux rien te promettre. Malgré mes efforts, elle peut mourir quand même. La mort vient pour tout le monde. Tout ce que nous pouvons choisir, c'est la manière de l'affronter. Je vais vous conduire jusqu'à notre ami.
Deux nouvelles aïelles jaillirent du néant à moins de 10 pas de là. En fait, elles étaient cachées pour l'une dans un repli de terrain qu'Egwen aurait cru insuffisant pour dissimuler un chien, et pour l'autre dans des herbes qu'il fallait être très optimiste pour qualifier de hautes. Elles abaissèrent leur voile noire, un choc pour Egwen, car les aïelles des deux sexes, selon Elaine, se voilaient uniquement quand ils prévoyaient de tuer, et dénouèrent, puis laissèrent reposer sur leurs épaules, l'écharpe qui leur servait à s'envelopper la tête. Une des femmes avait les mêmes cheveux cuivrés qu'Avienda. L'autre était une rousse de feu aux yeux bleus. Pas plus vieille qu'Egwen et Elaine, elle semblait bien résolue à se servir des lances qu'elle brandissait. La rousse tendit ses armes à Avienda. Un long couteau à la lame très large, un carquois plein de flèches et un arc court qui semblait en corne. Lorsqu'elle se fut équipée, le couteau et le carquois à la ceinture et l'arc en bandoulière, l'aïel saisit les 4 courtes lances à la pointe acérée et la petite rondage que l'autre guerrière avait gardée pour elle. Comme ses compagnes, Avienda trimbalait cette panoplie aussi naturellement qu'une villageoise de Champ des Mondes arborait un foulard.
« Suivez-moi, »
dit-elle, repartant vers les buissons que le trio avait dépassés un peu plus tôt. Et Gwen se coupa enfin du Saïdar. Si elles entendaient la transpercer avec leurs lances, les aïels seraient trop rapides pour qu'elle ait le temps de se défendre. Mais ce n'était pas l'intention de ces femmes, même si elles se montraient méfiantes.
« Mais que se passera-t-il si Ninevé ne parvient pas à soigner leur ami ? J'aimerais vraiment qu'elle nous consulte avant de prendre des décisions qui nous engagent toutes les trois. »
Alors que le petit groupe se dirigeait vers les arbres, les aïels sondèrent les environs, comme si elles s'attendaient à y repérer des ennemis aussi doués qu'elles pour le camouflage. Avienda ouvrant la marche, Ninevé se porta à sa hauteur.
« Je suis Elaine de la maison Trakand, fille héritière de la reine Morgas d'Andorre. »
Tout ça dit sur un ton neutre, comme si la jeune femme parlait de la pluie et du beau temps. Et Gwen faillit s'en emmêler les pinceaux.
« Pas la lumière, elle perd la tête ? Andorre a joué un rôle capital dans la guerre des Aiels. Ça fait peut-être 20 ans, mais ce peuple est réputé pour sa mémoire.
Je me nomme Bane, du clan La Roche Noire des Aiels Shaharad,
répondit simplement une des guerrières.
Moi, je suis Shiad,
dit l'autre, une blonde plus petite que ses deux compagnes.
Du clan de la Rivière de Pierre, des Aiels Gauchiennes.
Je m'appelle Egwen Alvéré,
se présenta Egwen. Voyant que les aïels semblaient sur leur faim, elle ajouta.
Fille de Marine Alvéré, de Champ des Mondes, sur le territoire de Deux-Rivières.
Cette information sembla satisfaire les guerrières. Pourtant, cette filiation devait leur sembler aussi opaque que les clans et les sous-clans dont elle parlait, comme si les noms aïels n'avaient dû connaître que ça.
Ce sont des structures familiales, plus ou moins.
Vous êtes des premières sœurs ?
Demanda Bane, s'adressant apparemment aux 3 jeunes femmes. Prenant le mot « sœur » dans l'acception que lui donnaient les Aes Sedai, Egwen répondit d'un « oui » franc et massif.
« Non !»
lâcha Elaine exactement au même moment. Shiad et Bane se regardèrent comme si elles doutaient fortement de la santé mentale des 2 jeunes femmes.
« Première sœur »
dit Elaine d'un ton professoral.
« Désigne des femmes qui ont la même mère. Deuxième sœur s'utilise quand leurs mères sont sœurs. »
Elle se tourna vers les guerrières.
Nous ne savons pas grand-chose de votre peuple, il faut nous en excuser. Je pense souvent à Egwen comme si elle était ma première sœur, mais en réalité nous ne sommes même pas parentes. Alors pourquoi ne prononcez-vous pas vos vœux devant votre matriarche ?
Demanda Shiad.
Bane et moi sommes devenus premières sœurs.
Egwen ne put dissimuler sa confusion.
Comment peut-on le devenir ? Soit on a la même mère, soit on ne l'a pas, non ? Maintenant, ne vous vexez surtout pas. Le peu que je sais sur les promises de la lance, c'est Elaine qui me l'a appris. Je sais que vous vous battez comme des lionnes et que vous ne vous intéressez pas aux hommes, et c'est à peu près tout.
Elaine acquiesça. Sa description des promises en faisait un assez étrange croisement entre des sœurs de l'âge rouge et des championnes, si une telle corporation avait existé. Les deux aïeules se regardèrent de nouveau comme si elles avaient le sentiment de converser avec des démentes.
« Ne nous intéressons pas aux hommes ?»
répéta Shi'ad, interloqué. Bane fronça pensivement les sourcils.
« Ce que tu dis ressemble à la vérité, et pourtant c'en est très loin. Quand nous nous unissons à la lance, nous jurons de ne nous lier ni à un homme ni à un enfant. Certaines d'entre nous renoncent à la lance pour les beaux yeux d'un homme ou l'amour d'un enfant, mais une fois fait, ce choix stupéfiant est irréversible. Il arrive aussi qu'une promise renonce à la lance pour aller à Ruidéan,
précisa Shi'ad.
Car une matriarche ne peut pas épouser la lance. »
Bane regarda sa compagne comme si elle venait de déclarer pompeusement que le ciel était bleu ou que la pluie tombait des nuages. Le regard qu'elle coula à Egwene et Elaine sembla sous-entendre qu'elle n'était peut-être pas informée de ces réalités-là.
« Oui, c'est vrai, même si certaines tentent de s'opposer à la règle. »«
Elles essaient, oui, »
renchérit Shi'ad. On eût dit que les deux aïeules faisaient allusion à un secret connu d'elles seules.
« Mais je me suis écarté de mes explications, »
reprit Bane.
« Les promises ne dansent pas le ballet de la lance les unes contre les autres, même quand leurs clans sont ennemis. Mais les aïeules Sha'arad et les aïeules Goshien se détestent et se combattent depuis 400 ans. » Shi'ad et moi avons trouvé que nos vœux de mariage avec la lance ne suffisaient pas. Nous sommes donc allés accomplir devant les matriarches de nos clans, chacun confiant sa vie à l'autre, le rituel qui a fait de nous des premières sœurs. Comme toutes les premières sœurs qui appartiennent également aux promises, chacune protège les arrières de l'autre, et aucune n'accueille un homme hors de la présence de l'autre. Dans ce contexte, je ne dirais pas que les hommes ne nous intéressent pas.
Shi'ad acquiesça avec l'ombre d'un sourire.
La vérité t'apparaît-elle clairement, Egwene ?
« Oui, »
répondit la jeune femme. Croisant le regard d'Elaine, elle y lut la stupéfaction qui devait s'afficher dans le sien.
« Pas la jarre rouge. Le vert, peut-être. Un mélange entre des championnes et des sœurs vertes, plus quelque chose que je ne saisis pas vraiment. Enfin, je crois.
La vérité est tout à fait limpide pour moi, Bane. Merci beaucoup. Si vous avez le sentiment d'être des premières sœurs toutes les deux, »
dit Shi'ad,
vous devriez aller voir vos matriarches pour accomplir le rituel. » Mais malgré votre jeunesse, vous êtes des matriarches. Dans un cas pareil, je ne sais pas comment il faut procéder. »
Egwene se demanda si elle devait éclater de rire ou rougir jusqu'aux oreilles. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Elaine et elle, partageant le même homme.
« Non, minute. C'est réservé aux premières sœurs qui sont aussi des promises, si j'ai bien compris. »
Elaine avait le rose aux joues, à coup sûr parce qu'elle pensait à Rand, devina Egwene.
« Mais nous ne le partageons pas, mon ami. Aucune de nous ne peut l'avoir, c'est différent. »
« Shi'ad ?»
dit Elaine.
« Je crois qu'il n'y a pas besoin de rituel. Egwene et moi protégeons déjà nos arrières. »« Comment est-ce possible ?»
demanda l'aïeule.
« Vous n'êtes pas mariés à la lance, et de plus, vous êtes des matriarches. Qui lèverait la main sur une matriarche ? Je n'y comprends plus rien. Quel besoin de protection avez-vous ? »
Egwene aurait été bien en mal de répondre, mais l'entrée dans le bosquet lui épargna cette peine. Sous les arbres, deux aïeules de plus se tapissaient, du côté de l'eau, constata Egwene. Il y avait là Jolien, du clan du sel plat, des Nakai aïeules, une petite femme aux cheveux roux clairs et aux yeux bleus qui veillait sur Daylin, une compagne de sous-clan et de clan d'Avienda. Les cheveux empoissés de sueur, la jeune blessée ouvrit une seule fois ses yeux gris, lorsque les cinq femmes arrivèrent, puis elle les garda clos et ne releva plus la tête. Sa veste et sa tunique reposaient à côté d'elle, et du sang maculait le pansement qu'elle portait autour du torse.
« Un coup d'épée, »
expliqua Avienda.
« Quelques soldats, comme les appellent les renégats tueurs d'arbres, nous ont prises pour un groupe de bandits. Cette terre en est infestée en ce moment. Pour les convaincre qu'ils se trompaient, nous avons dû tuer ces imbéciles. Mais Daylin, Aes Sedai, peux-tu l'aider ?»
Nineveh s'agenouilla à côté de Daylin, souleva le pansement, et fit la grimace en découvrant l'étendue des dégâts.
« L'avez-vous déplacée depuis qu'elle a été blessée ?»« Une croûte s'était formée, mais elle a été brisée. »« Elle voulait mourir près de l'eau, »
dit Avienda. Elle regarda la berge, puis détourna vivement la tête. Egwene eut l'impression qu'elle frissonnait.
« Imbécile !»
s'écria Nineveh en fouillant dans sa sacoche à herbe médicinale.
« La déplacer avec une blessure pareille ! Vous avez failli la tuer !» Elle voulait mourir près de l'eau, paraît-il. Porter les mêmes armes que les hommes vous rend-il aussi stupide qu'eux ?
Elle sortit une coupe en bois de sa sacoche et la tendit à Shi'ad.
Va la remplir d'eau. Il faut que je dilue mes plantes pour les lui faire boire.
Shiad et Bane allèrent ensemble au bord de l'eau. Même si elle n'en avait rien montré, Egwene aurait juré qu'elle redoutait la rivière, comme si des tentacules avaient pu en jaillir pour s'emparer d'elle et les entraîner vers le fond.
« Si nous ne l'avions pas portée jusqu'à l'eau, Aes Sedai, »
souligna Avienda.
« Nous ne t'aurions pas rencontrée, et elle serait morte à coup sûr. »
Ninevé entreprit de mélanger des poudres dans la coupe d'eau.
« De la racine de Corène pour reconstituer son sang. Des pétales d'hépatique blanche pour la cicatrisation. Et une bonne dose de guéritou, bien entendu. »
L'ancienne sage-dame continua à énumérer des noms, bien trop bas pour que ses compagnes l'entendent. Avienda ne cacha pas sa perplexité.
« Nos matriarches utilisent des plantes, mais je n'ai jamais entendu dire que les Aes Sedai y avaient également recours. « Je fais ce qui me chante !»
lança Ninevé avant de se concentrer de nouveau sur ses décoctions.
« Elle a le caractère et la façon de parler d'une matriarche !»
souffla Shiad à Bane. Sa compagne hocha gravement la tête. À part Daylin, toutes les Aiel brandissaient leurs armes, et elles semblaient bien décidées à s'en servir s'il le fallait.
« Et Ninevé ne fait rien pour les calmer, »
pensa Egwene.
« Si je trouvais un sujet de conversation, ce serait judicieux, non? Quand ils bavardent gentiment, les gens ne pensent pas trop à étriper leur prochain. N'y voyez aucune offense, »
commença la jeune femme.
« Mais j'ai cru remarquer que la rivière vous met toute mal à l'aise. Elle n'est jamais dangereuse, savez-vous, sauf en cas de tempête. Même si le courant est assez fort, vous pourriez y nager. »
Elaine secoua frénétiquement la tête, mais il était trop tard pour changer de sujet. Soudain blême, comme toutes ses compagnes, Avienda souffla.
« J'ai vu un homme du Chiennard nager un jour. »« Un jour ? Je ne comprends pas. »
insista lourdement Egwene.
Je sais qu'il y a peu d'eau dans votre désert, mais... Jolienne, tu appartiens au clan de la rivière de Pierre, dis-tu. N'as-tu donc jamais nagé dans ces eaux ?
Elaine regarda son amie comme si elle venait de perdre la raison.
« Nager ?»
fit Jolienne, très dubitative.
« Tu veux dire aller dans l'eau ? Toute cette eau et sans rien pour se tenir ?»
Elle frissonna.
« Aes Sedai, avant de traverser le mur du dragon... Je n'avais jamais vu un cours d'eau que je ne pouvais pas enjamber. La rivière de Pierre, certains disent qu'il y avait de l'eau dans son lit, jadis. Mais ce sont des fadaises. Elle est remplie de pierres, et c'est tout. Les plus anciens récits des matriarches et des chefs de clan racontent qu'il n'y a jamais rien eu d'autre depuis le jour où notre clan, se séparant de celui de la Haute Plaine, revendiqua ce territoire. Nager. Nager.
Jolienne serra plus fort sa lance, comme si elle désirait en découdre avec ce mot. D'instinct, Bane et Shiad s'éloignèrent d'un pas de plus du bord de l'eau. Egwene soupira et rosit quand elle croisa le regard d'Elaine.
« Très cher, je ne suis pas une fille héritière pour savoir toutes ces choses, mais j'apprendrai, c'est certain. »
Regardant les Aiel, Egwene dut reconnaître qu'elle ne les avait pas calmées, bien loin de là.
« Si elles tentent quelque chose, je les contiendrai avec une invocation d'air. »
Saurait-elle maîtriser quatre personnes en même temps ? Elle n'en savait rien, mais ça ne l'empêcha pas de s'ouvrir au Saïdar, de préparer le tissage de pouvoir et d'attendre, très sereine. Le pouvoir pulsait en elle, avide de se déchaîner. Du coin de l'œil, elle remarqua qu'aucune aura n'entourait Elaine, qui secouait de nouveau furieusement la tête.
« Je ne ferai jamais de mal à une Aes Sedai, »
dit soudain Avienda.
« Vous devriez le savoir, mais... Que Daylin survive ou non, ça ne changera rien. Pas question que je lève un jour une lance contre une femme, et encore moins contre une Aes Sedai.
Egwene eut le sentiment, assez pénible, somme toute, que l'Aiel essayait de calmer le jeu.
« Je le sais, »
fit Elaine, comme si elle répondait à Avienda, mais en s'adressant en réalité à Egwene.
« Personne n'en sait très long sur ton peuple, mais on m'a dit que vous ne maltraitiez jamais une femme, sauf si elle est... « Marié à la lance, c'est comme ça qu'on dit ?»
Bane parut estimer que la fille héritière passait une fois de plus à côté de la vérité.
« Il n'en va pas exactement ainsi, Elaine. Si une femme qui n'est pas mariée à la lance m'attaque avec une arme, je lui en ferai passer l'envie très violemment, tu peux me croire. Un homme peut penser qu'une femme de chez vous est mariée parce qu'elle porte des armes. Je ne sais pas trop, les hommes sont si bizarres. » « Oui, bien sûr. »
dit Elaine.
« En résumé, Tant que nous ne vous attaquons pas avec des armes, nous n'avons rien à craindre de vous. »
Les quatre Aiel semblaient vraiment troublés. Histoire de ponctuer son discours, la fille héritière jeta un regard appuyé à son ami. Egwene ne se coupa pourtant pas du Saïdar. Tout ce qu'Elaine avait appris n'était pas parole sainte, y compris lorsque les Aiel disaient la même chose. De plus, sentir le Saïdar en elle était délicieux. Ninevé souleva la tête de Daylin et entreprit de lui faire boire sa préparation.
« Allons, courage. Je sais que c'est infect, mais il faut tout avaler. »
Daylin s'étrangla à moitié, mais but quand même.
« Même si vous nous attaquiez, Aes Sedai, »
dit Avienda à Elaine,
« nous ne vous frapperions pas. »
Elle garda pourtant un œil sur Ninevé et Daylin.
« Avant la dislocation du monde, dit-on, nous servions les Aes Sedai. Aucun récit ne précise comment et en quoi, mais une chose est sûre. Nous n'avons pas été à la hauteur. C'est peut-être le péché qui nous a valu l'exil dans la tierce terre. Je n'en sais rien, et personne n'en a la moindre idée. » À part peut-être les matriarches et les chefs de clan, qui garderont à tout jamais le secret. En tout cas, si nous trahissons une nouvelle fois les Aes Sedai, il est écrit qu'elles nous détruiront. Bois tout,
marmonna Ninevé.
Des épées. Des épées et des muscles, et pas de cerveau. Nous ne vous détruirons pas,
affirma Elaine. Avienda acquiesça.
Si tu le dis, Aes Sedai. Mais les anciens récits sont très clairs sur un point. Nous ne devons jamais combattre les Aes Sedai. Si vous me bombardez avec vos éclairs et vos torrents de feu, je danserai sur votre musique, mais je ne vous ferai aucun mal. Blessez les gens,
grogna Ninevé. Elle reposa la tête de Daylin et lui palpa le front.
Blessez des femmes.
Avienda fronça de nouveau les sourcils et d'autres Aiel l'imitèrent.
Torrents de feu? Avienda, que sont ces torrents de feu?
La guerrière parut ne pas en croire ses oreilles.
Tu l'ignores? Dans les anciens récits, les Aes Sedai les contrôlent. On dit que ce sont des armes terribles, mais je n'en sais pas plus. Hélas, nous avons oublié énormément de choses au fil des siècles. La Tour Blanche en a peut-être oublié aussi,
dit Egwene.
J'en ai entendu parler dans ce rêve qui n'en était pas un. Un songe aussi réel que Telaran Riod. J'en prendrai le pari contre Matt en personne. Pas le droit!
Rugit Ninevé.
Personne n'a le droit de déchiqueter ainsi des corps. Ce n'est pas juste. Est-elle en colère?
Demanda Avienda, inquiète. Chiad, Bane et Jolien ne semblaient guère plus rassurés.
Tout va bien,
les rassura Elaine.
C'est même mieux que ça,
s'écria Egwene.
Elle s'énerve. Et c'est ce qui pouvait arriver de plus souhaitable.
L'aura du Saïdar enveloppa soudain l'ancienne sage-dame. Alors qu'Egwene et Elaine tendaient le cou pour mieux voir, Daylin se redressa en sursaut et cria à s'en casser les cordes vocales. Aussitôt, Ninevé la força à se rallonger et l'aura disparut quelques instants après. Les yeux de nouveau clos, la blessée resta allongée, le souffle heurté.
« Je l'ai vu faire, »
pensa Egwene.
« Enfin, je crois. »
Avait-elle vraiment distingué les multiples flux que Ninevé avait tissés ensemble à une vitesse qui dépassait l'entendement? C'était comme fabriquer quatre tapis en même temps avec un bandeau sur les yeux, un exploit impensable. Ninevé utilisa le pansement ensanglanté pour nettoyer le ventre de Daylin, éliminant des fragments de sang séché en même temps que du fluide vital tout frais. Il n'y avait plus de plaie, pas de cicatrice, juste une peau régénérée nettement plus claire que sur le visage de l'Aiel. Avec une grimace, Ninevé ramassa tous les tissus souillés et les jeta dans l'eau.
« Finissez de la laver, »
dit-elle.
« Et habillez-la, parce qu'elle a très froid. Préparez à manger, surtout. Elle sera morte de faim à son réveil. »
Sur ces mots, l'ancienne sage-dame s'accroupit au bord de l'eau afin de se laver les mains.